Église en Mayenne.
Aujourd'hui dans Église en Mayenne, nous vous proposons une émission spéciale en hommage à Don Joseph Deschamps, qui fut trappiste à l'abbaye du Port du Salut depuis 1996 et qui est décédé le dimanche 28 février. Véronique Lara l'avait soumis au feu de ses questions en 2009. Écoutons cette interview témoignage.
Ce mois-ci, je vous propose de rencontrer Don Joseph Deschamps, père abbé de la Trappe Notre-Dame du Port du Salut à Entrammes. Père abbé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Tournai, en Belgique. Je commence par quelques petites dates, comme ça. Vous avez intégré le séminaire à l'âge de 18 ans, c'était donc très jeune. Vous avez été ordonné à 25 ans, à peine, en juin 1963. Première question, mon père, comment est née votre vocation ?
Au départ, j'avais un désir de venir en aide aux pauvres, spécialement dans le tiers-monde, et quand j'ai terminé mes études secondaires, j'avais envie d'être agronome tropical, comme on appelait à l'époque.
Agronome tropical.
Oui. Et voilà qu'est passé au collège le frère d'un ami intime, qui était missionnaire au Burkina Faso. C'était dans le terminal. Et son témoignage était tellement percutant, je me dis, voilà, fond, c'est ce que je cherche. Et bon, j'ai bifurqué à ce moment-là, et puis...
Quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps, déjà ?
Qui était au fond de moi, un peu inconnu. Il y avait bien un désir de vivre autrement, certainement. Une vie qui était donnée pour les pauvres, c'était ça qui était un peu un leitmotiv dans ma vie, puisque je m'occupais déjà à ce moment-là de la conférence à Saint-Paul, on allait au collège, on allait rendre visite aux pauvres.
Déjà à cet âge-là, c'est-à-dire que vous aviez 16, 17, 18 ans.
Oui, c'est ça.
Donc pendant votre adolescence.
Voilà.
Sitôt ordonné prêtre, vous êtes envoyé en mission donc par les missionnaires d'Afrique. Vous êtes devenu père blanc tout de suite. Vous êtes envoyé en Guinée, une ancienne colonie française.
Tout à fait.
Voilà. Quelle mission avez-vous remplie là ?
Vous savez que dans un pays comme la Guinée du temps de Sékou Touré, l'Église devait rester calme. L'Église avait été renvoyée dans son Église et dans sa sacristie. Et notre rôle était surtout un rôle d'animation des communautés chrétiennes et de façon un peu discrète, délicate, auprès de la jeunesse, vous voyez. On avait un peu simulé des mouvements de jeunesse sous le nom de groupements d'enfants de cœur, vous voyez. Il y avait beaucoup d'enfants de cœur. Beaucoup de servants de messe. En fait, c'est une espèce de... Mais alors, on avait beaucoup de communautés animées, catéchistes à former, etc. Donc, c'était une présence auprès de ces communautés qui était relativement vivante.
Vous avez trouvé ce que vous cherchiez quand vous aviez 16-17 ans ?
Pas tout à fait.
Quelle était la différence entre ce que vous imaginiez et
parce
ce que vous avez trouvé ?
Parce que nous étions quand même bridés en Guinée. On ne pouvions pas... C'était quand même très limité, hein. Ainsi, le dernier mois que j'ai passé en Guinée, avant mon expulsion, nous l'avons passé en résidence surveillée. Donc c'était quand même, on était très, très limités. Il manquait un peu ce volet d'aide aux plus pauvres, vous voyez. Il y avait une pauvreté extraordinaire en Guinée. Vous savez, c'est le pays le plus riche de l'Afrique occidentale. Il y avait des grandes pauvretés au niveau humain, au niveau même approvisionnement. On disait en Guinée à l'époque que tout citoyen était un détenu en liberté provisoire. Et c'était pour dire un peu chaque fois qu'on était, même nos sermons étaient, il y avait certainement, on était sûr qu'à dans un mêlée, ben, il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui
écoutait, au cas où.
Au cas où, voilà. C'est pour ça qu'on écrivait.
Vous êtes expulsé en 1967.
Nous sommes les seuls avec mon confrère Maurice Rambourg à avoir reçu un ordre d'expulsion. Les autres, on n'a pas reçu. On a dit qu'il fallait partir, mais nous l'avons reçu. Nous avons été un peu favorisés. Mais
ça a été un arrachement, seulement.
Un arrachement, c'était quelque chose de très, 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 très dur. Moi, j'étais resté que 4 ans en Guinée, mais pour ceux qui avaient fait toute leur vie, c'était quelque chose de très, très dur. Et certains ont mis du temps à se réinsérer dans d'autres pays.
Alors, vous êtes rentré pour 3 ans en Europe, et puis vous êtes reparti, cette fois-ci, envoyé au Mali.
Voilà.
Quelle était votre mission au Mali ?
J'avais toujours désiré... En fait, on m'a envoyé en Guinée, mais j'avais toujours désiré le désert. J'avais toujours désiré le désert. Et alors, j'ai demandé le Mali en espérant pouvoir aller au désert, la partie nord du Mali désertique.
Pourquoi le désert? Ça correspondait à quelque
Ah,
chose de vos lectures,
il y avait quelque chose de profond en
de
moi
vos
qui.
maîtres?
Oui, quelque chose en moi qui voulait le désert. Et il faut dire, il faut revenir un petit peu en arrière. Quand j'ai fait le noviciat chez les Pères Blancs, on faisait le noviciat en troisième année de formation, non pas au début. Quand j'ai fait mon noviciat, à ce moment-là, pendant la grande retraite de discernement, il s'est posé pour moi un dilemme, ou Père Blanc, ou Trappiste.
Déjà à l'époque,
À l'époque.
parce qu'on va y venir tout à l'heure à cette
Et
période,
déjà à ce moment-là, c'était clair à ce moment-là, c'était la vocation de Père Blanc. Donc, je continue.
l'action.
Pas nécessairement l'action, parce que la prière pour moi déjà était au cœur de l'action. Et je dirais, sans prière, on peut pas, on n'existe pas.
Vous êtes resté 12 ans au Mali. 12 années,
Plus que 12, plus que 12 ans, mais plus que 12 ans. Enfin, peu importe,
vous
on va dire que
avez
les.
enseigné, éduqué, prié, bien sûr, célébré.
Tandis que quand on arrive au Mali, j'étais dans une région, la région de chez les Dogons, un plateau rocheux où il y a 95% de cailloux, 5% de terre. Je suis arrivé en 70, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait 300 chrétiens peut-être sur ce plateau rocheux. Je me dis, est-ce que je vais me laisser accaparer par eux et les autres? Dans une région où on avait, c'est vraiment l'inverse de la Guinée, où on avait 3 600 mm d'eau en Guinée, sur le plateau rocheux de Bandiagara. On avait 350 à 400 mm d'eau sur une période de 4 mois de l'année.
Et après, plus rien.
Et plus rien. Et moi, j'étais quand même choqué de voir, il y avait des femmes qui, pendant 5 6 mois de l'année, même davantage, faisaient 10, 12, 15 km pour aller chercher de l'eau à pied. Au nom de l'Évangile, je ne peux pas rester sans rien faire. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en route tout doucement. Avec une équipe de locale, avec le médecin de l'endroit, et puis ensuite on a mis en route un projet de ce qu'on appelle l'animation rurale. Et le premier problème, c'était le problème de l'eau.
En
Problème
pays
de l'eau,
Dogon.
en pays Dogon.
Alors c'est une culture plus qu'ancestrale, le pays Dogon.
Très très ancien, très ancien. Ce sont des gens extraordinaires. Donc il a fallu à ce moment mettre sur pied le problème de l'eau. On a été vite acculé à la solution extrême, c'est-à-dire on pouvait plus creuser, on creusait à la dynamite, mais c'était tellement lent et pas toujours productif. Donc on a commencé à faire des forages très vite. C'est quand on voit les gens qui n'ont pas, je prends simplement le problème de l'eau, quand on voit des gens qui n'ont pas d'eau, on peut pas rester inactif, on ne peut pas se dire, bon voilà, moi tranquille, comme dit Saint-Jacques, je vous bénis et restez comme cela. Non, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas rester insensible et tout ce qu'on peut mettre en œuvre, il faut le faire. Bon, pas seul, c'est toujours avec des équipes, hein. J'ai eu la chance de pouvoir travailler toujours avec des équipes, de parfois quelques Européens qui venaient nous aider, mais surtout avec des gens de l'endroit qui étaient vraiment de très bons collaborateurs. Et ça a été vraiment des moments de très forts
Mais vous auriez pu faire tout ça tout en étant agronome tropical.
Exactement. Exactement.
Alors, la
Mais il y
différence?
avait la différence, mais c'est que il y avait tout l'aspect de l'Évangile qui apporte quand même cette dimension cette dimension de l'Évangile, que l'Évangile lui-même, la force de l'Évangile, c'est une puissance extraordinaire, hein. Et par exemple, tout notre développement qu'on faisait, oui, c'était pas moi-même qui le faisais, enfin, c'était les communautés. On animait les communautés de base, vous voyez, les communautés de base qui même prenaient ce travail en main, qui se responsabilisaient dans ce travail. Donc c'était quand même important, c'est qu'il y avait quand même tout cet aspect, cette couleur évangélique, vous voyez,
Qui vous animait de toute façon?
Oui, et puis tout mon travail, c'était pas seulement. C'était la formation des animateurs de communautés, des catéchistes, vous voyez. Donc on travaillait sur différents plans. Et ce qui était intéressant, c'est que le travail de développement, vous voyez, avait une influence sur la vie des communautés chrétiennes. Et les communautés chrétiennes, vous voyez, elles avaient, on peut dire, un impact sur la vie des villages. Vous voyez. Il y avait une espèce d'interaction entre le développement et l'évangélisation, l'évangélisation et le développement. C'était quelque chose de très 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 beau et je ne vais pas dire que c'est parfait, certainement pas, mais c'est une dimension qui est
assez équilibrée.
Équilibrée et souvent qu'on ne relève pas parce qu'on a l'impression qu'on fait du développement, c'est séparé de l'évangile. Non, pas du tout, au contraire.
Père Joseph, si vous voulez bien, on fait une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour continuer le voyage de votre vie de prêtre.
Nous retrouvons Do Joseph Deschamps qui témoignait donc au micro de Véronique Lara, un hommage bien mérité à celui qui fut une figure marquante de l'abbaye du Port du Salut d'Entrammes.
Pour des raisons familiales, vous rentrez en France ensuite, mon père.
Je rentre pour des raisons de santé.
Et vous choisissez aussi de vivre votre sacerdoce en paroisse, dans le diocèse de Tournai.
En paroisse.
D'où vous êtes originaire.
Oui, en paroisse et aussi dans une animation de... d'un mouvement national qui s'appelle Vie Féminine. Et on m'avait confié l'aumônerie de secteur de ce...
Votre mission n'a plus rien à voir avec,
non, parce
avec
que
l'Afrique,
voyez,
évidemment.
Non, ça n'a plus rien à voir avec l'Afrique, mais quand même, vous voyez, dans l'animation de ce groupement, au niveau de la région, une région presque diocésaine, il y avait quand même beaucoup de ressemblances. C'était vraiment un mouvement qui s'occupe des gens des pauvres, des gens qui sont dans le besoin. À un certain moment, je revivais un peu ce contact avec les
familles.
Avec les familles, les villages, etc. Mm-hmm. Oui.
Et puis, quelques années plus tard, 1996, vous changez, moi je vous dis complètement de vie, vous allez peut-être me dire le contraire, vous rentrez à la Trappe, c'est-à-dire à Notre-Dame du Port du Salut. Vous passez de l'action à la vie monastique. Oui. Est-ce contradictoire d'ailleurs ?
Non, c'est pas du tout contradictoire. Je pense qu'il y avait, toujours au fond ce vieux. D'abord, cet appel à la contemplation est toujours resté très fort dans toute ma vie de missionnaire. Je dirais que ça a été un peu le moteur de ma vie et ça a été certainement, là, je vais pas dire une force, mais c'était vraiment. Un pôle qui a dirigé, qui a orienté toute ma vie missionnaire, toute ma vie d'action. Je dirais que ma vie d'action n'avait pas de sens sans cette prière, cette contemplation.
Mais là, vous choisissez quand même une vie difficile. La Trappe, c'est plus dur que d'autres monastères.
Vous savez, je pense que quand la vocation est là, on ne voit pas cet aspect-là. Je pense que là, c'est comme quand un garçon aime une fille. Bon, si elle a un nez de travers, bon, s'il l'aime, il va l'aimer parce qu'il l'aimerait quand même.
C'est sûr. Bon, bah, c'est
je
clair.
Pense on ne voit pas la difficulté. Non, on voit cette. Je pense que c'est là que l'appel, c'est vraiment, l'appel, c'est l'appel. On ne l'invente pas. Mm-hmm. On ne l'invente pas. C'est Dieu qui appelle et à ce moment-là, bon, ben.
Les choses sont claires comme de l'eau de roche.
Les choses sont claires et on ne voit pas ce qu'il y a des difficultés. Au contraire, le cœur est encore, le cœur se donne, et il est généreux et puis bon, voilà. C'est dans...
Alors il y a moins d'actions concrètement d'une heure sur l'autre dans une journée, mais c'est une vie de travail aussi, la vie monastique.
Oui, mais c'est essentiellement une vie de contemplation. Hein. Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment une vie de tout concours à la contemplation, à la prière. Mais bien sûr, comme vous dites bien, il y a cet autre aspect, il y a cet équilibre, c'est le travail, ora et labora de Saint Benoît, un équilibre qui permet justement de vivre équilibré. Hein. C'est ça, c'est assez. Quand on regarde bien l'horaire monastique tel qu'il est établi, eh bien vraiment, on peut dire qu'on a une vie véritablement équilibrée, ce qui est rare aujourd'hui.
Oui,
Mais
c'est
même
rare aujourd'hui.
c'est rare aujourd'hui, un bémol quand même, c'est que nous sommes tentés, vous savez, le monde arrive jusqu'au cœur de nos monastères et nous devons être vigilants aujourd'hui, voyez, pour
Vous êtes du
rester ce que nous
monde
sommes.
tout en étant hors du monde,
Non,
mais pleinement du monde.
on n'est pas du monde, non, parce que nous n'avons pas les mêmes, enfin, on n'est pas les, on n'avons pas les mêmes paramètres quelque part, mais on vit dans le monde parce qu'il faut vivre, il faut vivre, on travaille avec des gens dans le monde, des gens du monde, des gens avec des sociétés qui, hein, dont il faut tenir compte.
Oui, on parle argent, on utilise Internet, évidemment,
Oui,
il faut tourner.
nous travaillons pour des sociétés qui nous disent, voilà, vous devez fournir votre travail pour telle date, à telle heure, etc. Donc, il y a des contraintes. Mais voilà, nous devons quand même rester ce que nous sommes. Il ne faut pas vendre son âme au diable, comme on dit. Oui,
Ou s'isoler, oui. Il ne faut pas
voilà, s'isoler,
s'isoler non plus.
ou bien faire vraiment comme le monde, etc. Je pense qu'il y a une interpellation aujourd'hui. Le monde nous interpelle quelque part parce que on serait tenté de dire, voilà, on va en prendre des moyens efficaces. Oui, faut être efficace aujourd'hui parce que la vie aujourd'hui dans les affaires, elle est
Le
complexe.
monde vous interpelle, mais c'est peut-être vous aussi qui interpellez le monde.
Oui, pardon.
La preuve, il y a quelques jours, vous avez donné une conférence sur justement votre travail à des membres du MCC, le mouvement des cadres chrétiens, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont pleinement dans cette vie d'entreprise, qui encadrent des équipes, qui plus est, mais c'est votre témoignage qu'ils vous ont demandé. Qu'est-ce que
Voilà.
vous leur avez dit?
Oui, dans la règle de Saint-Benoît, il y a ora et labora, vous voyez. Et Benoît a deux manières dans le travail, pour lui, il y a deux aspects dans le travail. Il y a un aspect qui est épanouissant. Il y a un aspect qui est épanouissant. Il y a un aspect qui est pénible aussi, vous voyez. Et Benoît a trouvé, je dirais, c'est sa spiritualité. Une façon de concevoir le travail de façon à ce que le moine et l'homme, vraiment, non seulement trouve un équilibre, mais un épanouissement dans son travail. Comment le trouve-t-il? Justement, c'est dans la contemplation, dans la prière. Parce que l'œuvre lui-même, vous voyez, il revient continuellement à la prière. Notre vie, non, notre vie de moine, elle est coupée.
Toujours
Elle est
coupé.
coupée. Pourquoi? On pourrait dire, vous voyez, que c'est pour nous faire plier, nous déranger, non, etc. Mais chaque fois, le travail est coupé, on va à la prière. Oui. On peut dire que c'est, pas dire que c'est saucissonné, mais on revient à l'essentiel. Oui.
C'est pour vous appeler à l'essentiel
À
que le
l'essentiel,
travail est
et le
coupé.
travail, il n'est pas esclave. Le travail, c'est pour rappeler que le travail, c'est une collaboration à l'œuvre de Dieu.
C'est vrai que humainement, ça doit être difficile de vous arracher à une tâche
Ça,
pour
c'est
l'office.
certainement que c'est vrai, ça, parce que bon, on est en plein travail, on revient à
À
l'essentiel. On
l'essentiel.
revient à l'essentiel. Et ça, je trouve que c'est beau parce que bon, on n'a jamais fini d'approfondir, de revenir à l'essentiel. Je pense que.
Alors, dans les choses essentielles, il y a donc la prière, et dans la prière, il y a la lectio divina. C'est une de vos spécialités.
Bon, spécialité, peut-être pas, mais je dirais que toute ma vie, j'étais un homme passionné de la parole de Dieu.
D'abord, on va peut-être dire, mon père, excusez-moi de vous interrompre, on va peut-être dire à nos auditeurs ce que c'est qu'exactement la lectio divina.
Oui, on va m'expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que la lectio divina? C'est tout simplement prendre la parole de Dieu.
Là où elle se trouve.
Elle se trouve dans la Bible.
Oui.
Et Saint Bernard a une très belle expression pour la lectio divina. Il dit, il faut ruminer la parole de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que on la lit, on la relit, on se laisse toucher par la parole. Finalement, c'est ça l'essentiel. Oui, souvent, on veut dominer la parole, non? C'est Dieu qui nous parle, c'est une lettre que Dieu nous adresse pour une lettre d'amour de Dieu pour nous aujourd'hui, là où je suis, dans ma situation.
C'est une lecture suivie ou vous ouvrez par hasard
Nous avons un instrument qui est formidable, c'est la liturgie. La liturgie, dont nous avons chaque jour, nous avons deux lectures pour l'Eucharistie. Je pense qu'on se commence, si on se contente déjà de ces deux lectures, il y a une nourriture suffisante. Hein. Et je crois.
Les lectures de la liturgie, elles sont déjà sélectionnées. Il y a d'autres documents dans la Bible que vous lisez aussi?
Oh oui, parfois on peut faire. Moi, parfois, ça m'arrive de faire une lecture continue d'un livre de la parole de Dieu, de la Bible. Il n'y a pas très longtemps, je suis resté des mois et des mois sur la première lettre de Saint Jean. Bon, on peut rester. On peut
Des
partir,
mois
on
et des
goûte
mois.
des mois et des mois, oui. Je me rappelle le fruit, on peut rester des mois. On prenait Ésaïe, par exemple, on allait goûter Ésaïe, on reste des mois,
À
on n'en finit pas.
reprendre les mêmes versets plusieurs fois.
On reprend les mêmes versets, et puis un verset, il y a un mot qui vous parle, oui, on se laisse. Faut apprendre à se laisser toucher par cette parole de Dieu et se laisser labourer le cœur, je dirais, par
Est-ce que
cette
dans les
parole.
temps de Lectio Divina, vous lisez aussi des vies de saints,
Oui, on peut
des
prendre.
textes de l'Église?
Oui, il faut un peu, enfin, il y a toujours cette parole de Dieu, la parole nue, je dirais, la parole de Dieu qu'il faut prendre, mais aussi, bon, il faut quand même lire des commentaires de si vous regardez, les pères de l'Église ont commenté la parole de Dieu, c'était toute leur vie aussi, toute leur vie, c'était. Et je pense qu'aujourd'hui, une chance pour l'Église d'aujourd'hui et de demain, c'est de revenir à la Lectio Divina. Je crois que c'est là que nous allons retrouver vraiment un souffle de vie, une source de notre foi et, je dirais, envie de prier.
Pour les laïcs, hein, vous dites ça, pour tous
Pour
les
tout le monde,
chrétiens.
mais pour tout le monde, pour tout le monde. Je pense que
Les religieux, les laïcs,
la parole
voilà.
de Dieu n'est pas réservée aux moines. C'est-à-dire que
Voilà.
nous passons beaucoup de temps. C'est ce qui donne sens à notre vie. C'est ce qui permet d'entrer dans la contemplation ensuite. Vous voyez, on a entendu cette parole de Dieu, on l'a ruminée, et puis voilà. Bon. C'est quelqu'un la parole. C'est quelqu'un. Quelqu'un. À partir du moment où on a trouvé que la parole, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui nous rencontre, quelqu'un qui.
Père, en 2006, vous avez été élu abbé de l'abbaye d'Entrammes. C'est une fonction qui vous a été demandée, que vous avez acceptée, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la mission de Père abbé?
Tout simplement, l'abbé, il est le père de sa communauté. Et puis, bon, voilà, il est un moine parmi les moines, mais bon, il a cette charge que le Seigneur, que l'ordre lui confie pour conduire sa communauté à Dieu et, je dirais, l'animer, la dynamiser. Mais bon, il ne fait pas ça tout seul. Et je dirais que c'est plus un père de famille qui reçoit cette grâce. Il y a une grâce qui est de l'abbatiat. Il y a une grâce certaine. D'ailleurs, si vous assistez à une bénédiction abbatiale, cette grâce de l'abbatiat, elle est partagée. J'ai toujours été frappé d'assister aux bénédictions abbatiales auxquelles j'ai assisté quand je n'étais pas abbé. Il y a cette grâce qui est à partager, à conduire le troupeau. Et puis Saint Benoît dit, Saint Benoît, il est même dur pour son abbé parce qu'il dit que Dieu lui demandera des comptes.
Alors, vous vous demandez ça de temps en temps?
Oh, bon.
C'est dur de se
Non,
dire.
mais parfois je me dis, non, faut pas se prendre trop au sérieux,
Saint
mais je me
Benoît est
dis,
bien dur.
non, il n'est pas dur, mais je dis au frère, parfois je dis, mais écoutez, je ne vous rendais compte, hein, si je ne vous ai pas bien conduit à Dieu, mais voilà. Mais bon, c'est plus un rôle d'animation, d'entraînement, oui, c'est ça. Entraîner ses frères, et puis on s'entraîne mutuellement d'ailleurs, hein, les frères m'entraînent aussi, les frères m'aident aussi parfois. Il y a c'est très beau, dans une petite communauté comme la nôtre, il y a cette espèce d'interaction aussi entre
De
les de
fraternité.
fraternité. Bon, c'est pas un grand l'abbé n'est pas un grand chef, etc. Bon, c'est une communauté, peut-être des grandes communautés, c'est peut-être le cas, mais
Vous êtes
pour
combien à Entrammes?
l'instant, nous sommes 14 pour l'instant.
Vous avez deux novices.
Un novice et un jeune prophète. Et nous aurons prochainement un prêtre qui devrait rentrer prochainement.
Un prêtre qui est déjà prêtre
Qui est déjà
et
prêtre,
adulte
qui est
formé.
déjà formé, c'est ça, oui. Voilà. Et puis qui a déjà même eu une formation monastique déjà. Donc, voilà.
Père, on a fini tout à l'heure une conversation qu'on pourrait reprendre, mais malheureusement, on va être obligé de se séparer. Vous avez dit la parole est quelqu'un. J'aimerais que vous concluiez là-dessus.
Le christianisme, c'est une religion, c'est un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, un Dieu qui parle. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Et c'est ce que disait, on a réentendu ça récemment, là, au temps de Noël, hein, en reprenant le début l'Épître aux Hébreux, vous voyez, dans ce temps-là, Dieu a parlé. Dans les derniers temps, Dieu a envoyé son Fils. C'est peut-être, je dirais, unique dans les religions qu'un Dieu aussi proche, un Dieu qui se veut se faire proche d'hommes, mais vraiment, il veut continuer à parler aux hommes. Et la chance que nous avons, c'est la lectio divina, la parole de Dieu que nous prenons. Nous avons un trésor que nous ignorons. Oui. Nous avons le Saint-Sacrement, je dirais, chez nous, oui, dans la parole de Dieu. Et puis,
c'est là l'Église visible.
Oui. Pour moi, c'est la chance de l'Église de demain. Si l'Église revient à la parole de Dieu, si vraiment les chrétiens et les communautés reviennent à la parole de Dieu comme une source de vie, un ferment, je crois que elle est loin d'être perdue, loin de là, mais je dirais, mais ça va être certainement là qu'elle pourra puiser toute sa force, son dynamisme, et ça, tout le monde pourra le faire. Oui.
En hommage à Don Joseph Deschamps, décédé le 28 février dernier, nous étions heureux de vous permettre de l'entendre, lui, raconter et témoigner de sa vie, de sa vocation et de sa mission, et aussi de la perception de son sacerdoce. Merci à Véronique Lara d'avoir recueilli ces propos, qui résonneront encore longtemps dans nos cœurs, certainement. Et je termine en assurant les frères de l'abbaye de toute notre sympathie dans cette épreuve de la maladie et de la séparation.